C'est tout début février. Et du coup, janvier, quand même, c'était un mois où je suis allée au cinéma pas mal de fois, mais très resserrée sur quelques semaines, et notamment grâce au festival Télérama. Mais en fait, je sais pas, en 10 jours, j'ai dû aller 4 ou 5 fois au cinéma, quoi.
Eh, pas mal, c'est un beau record, bravo, bravo. Bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou n'importe quelle boisson qui vous plaît. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité.
Et aujourd'hui, on se retrouve pour un popcorn zapping spécial cinéma, comme vous l'aurez lu et entendu. Donc on va vous parler brièvement, sans spoiler, de 4 films qui sont à l'affiche actuellement. Et puis on vous parlera d'un dernier film un petit peu plus en détail, avec quelques spoilers, puisque je vous en avais parlé, j'ai assisté à une rencontre avec Jacques Audiard, et je crois aussi en final que c'était pendant le festival Télérama, il me semble.
Ouais.
Et voilà, j'ai assisté à une rencontre avec Jacques Audiard lors d'une projection de son film Olympiade au cinéma Méliès à Montreuil, qui fait énormément de rencontres. Donc si vous êtes dans le coin et que vous êtes férus de cinéma, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'ils font plein de rencontres avec des débats, et c'est vraiment vraiment top. Et donc voilà, on va revenir un petit peu sur cette rencontre et sur tout ce que j'ai appris sur le film en fin d'épisode. Et donc lui, on spoilera un peu, mais bon, normalement, il n'est plus à l'affiche, donc ce n'est pas grave. Soit vous l'avez vu, soit vous ne l'avez pas vu. Je pense que ce n'est pas non plus un film à spoiler énorme, hein, voilà, pour vous prévenir. Mais en tout cas, on en sait un peu plus sur lui grâce à Jacques Audiard. C'était hyper enrichissant, donc j'ai hâte de vous en parler. Mais en attendant, on commence par un film que Marjo a vu et qui a été choisi par nos abonnés Insta.
Oui. Donc oui, alors même si on a dit qu'effectivement on va parler de certains films qui sont encore à l'affiche, tous les films qu'on a vus dans le cadre du festival Télérama, c'était des sélections des films de l'année dernière. Donc en fait, ils sont pour la plupart plus à l'affiche, mais par contre, comme c'est des films qui sont sortis il y a un certain temps, vous pouvez, si vraiment on vous a donné trop envie et que vous les avez loupés, vous pouvez les retrouver en VOD ou je pense bientôt en streaming. Et c'est le cas notamment du film que vous avez choisi, qui est donc Nomadland de Chloé Zhao. Donc j'hésitais entre Nomadland et Les Illusions Perdues, et le débat a été assez serré, hein, les votes étaient assez serrés, mais finalement c'est Nomadland qui l'a emporté. Donc merci à tous ceux qui ont voté pour ce très bon choix, même si je pense que Les Illusions Perdues ça m'aurait probablement plu aussi, bon je ne l'ai pas vu du coup, mais j'ai vraiment adoré Nomadland, donc merci beaucoup de m'avoir envoyé voir celui-là. Et en fait, celui-là, il est comme il est sorti il y a plus d'un an maintenant, puisque j'ai regardé, en fait, il est sorti en fin décembre 2020. Donc, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il est sorti. Et il est disponible en VOD déjà. Donc voilà. Et donc, de quoi ça parle, Nomadland? En fait, on suit Fern, qui est interprété par Frances McDormand. Qui vit en fait dans son camion aménagé et qui survit de petits boulots qu'elle va chercher un peu à droite à gauche dans les zones rurales et principalement désertiques d'ailleurs du fin fond des États-Unis. Et en fait, en suivant un peu son quotidien sur, je crois que ça couvre une année à peu près. Ouais, ça couvre un peu plus d'un an, ouais. En fait, on découvre en fait, toute cette catégorie de personnes qui sont appelées en fait, les nomades aux États-Unis, qui en fait sont une nouvelle catégorie de la population américaine qui est apparue avec la crise des années 2008 et qui sont en fait des personnes assez âgées. C'est la plupart ont plus de 50 ans, en fait, et ont été touchées en fait, par la crise donc, de 2008 et ont perdu, donc, en général, leur boulot. Dans le cas de Fern, elle a perdu sa maison, enfin, voilà. Et donc, qui ont décidé, pour se relancer dans leur vie, en fait, de partir en camion, en caravane, tout ça, et donc de vivre sur les routes. Et donc, c'est un film qui était adapté d'un livre de non-fiction, je crois qu'on dit ça, non-fiction, qui est un livre, documentaire, enfin presque documentaire. Et ça se ressent dans le style, quoi. C'est vraiment très, très, très réaliste, très proche du réel. Et c'était un film qui a été surtout, en fait, hyper récompensé. Il a eu le Lion d'or de la Mostra de Venise. Il a eu 2 Golden Globes. Il a eu 3 Oscars. Il a eu 4 BAFTA. Donc, il a eu meilleur film et meilleure réalisatrice pour tout. Voilà, Golden Globe, Oscar, BAFTA, meilleur film et meilleure réalisatrice. Meilleure actrice pour Frances McDormand aux Oscars et aux BAFTA. Et meilleure photographie pour les BAFTA. Donc, voilà, carton plein pour ce film en 2021. C'était pas mal. Et franchement, ça les mérite. Hein. C'est un très, très, très beau film. J'ai adoré. Et j'étais vraiment touchée, en fait, par l'humanité, de la manière dont tout ça s'est traité. Et la particularité aussi, c'est que, bon, à part notamment Frances McDormand, qui est évidemment une actrice professionnelle, la plupart des rôles sont joués par des acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle, en fait. Et toutes les personnes qu'on croise sur les routes, c'est des gens qui vivent vraiment sur la route et qui incarnent leur propre rôle. Ils gardent même leur propre nom. Et du coup, Chloé Zhao, elle a réussi à filmer ça de manière très... Parce que des fois, c'est un peu bizarre. Enfin, quand on a des acteurs non pro, ça fait pas vrai, alors que pourtant, ils jouent leur propre rôle. Et là, je trouve que ça fait vraiment très, très vrai. C'est très, très beau, très émouvant. Et ouais, j'ai... Et ça a beau aborder... catégorie de personnes bah, qui nous semblent loin de nous, de notre quotidien. Les thématiques, par contre, que ça traite, c'est vraiment... Enfin, ça peut parler à tout le monde parce que ça parle beaucoup de deuil, puisque l'héroïne Fern, elle est veuve. Et ça aborde tout son parcours aussi. C'est un peu sa manière d'aborder de vivre le deuil de son mari. Et puis, ça aborde évidemment la question de la liberté et donc du choix de vivre sur les routes. Et voilà. Très, très beau, très émouvant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant émue par un film. C'était vraiment très beau.
Oui, il me tente vraiment bien. Mais je crois que j'avais vu la bande-annonce qui ne m'emballait pas plus que ça. Mais après, je pense que c'est vraiment le style qui doit être sympa à voir. Et parce qu'en soi, quand j'avais vu la bande-annonce, l'histoire, je me suis dit « Ah bon, oui, mais c'est pas captivant. »
Ouais.
Mais c'est vrai que toutes les récompenses font envie et puis la manière dont on parle aussi.
Ouais, bah c'est sûr que c'est pas un film à rebondissement, voilà, c'est juste on suit, puis c'est très contemplatif, parce qu'en plus ce rythme de vie il est assez, assez particulier, même si c'est pas du tout idéal, hein. c'est des travailleurs précaires qui se retrouvent avec des boulots tous plus pourris les uns que les autres, mais en fait ça traite ça pas du tout de manière misérabiliste, quoi. On voit la misère de ces gens, mais on voit surtout leur... l'humanité, puis le lien en fait qui se crée entre eux aussi, et c'est vraiment vraiment chouette. Donc ouais, je le conseille si vous aimez ce genre de voilà de film très proche du documentaire au final. Mais
ok, bon, on va enchaîner avec un film qui n'a rien à voir.
Non. Quoi, qui est un peu de nomade au début.
Ouais. un peu. Il s'agit de Nightmare Alley de Guillermo del Toro, qu'on a vu toutes les deux.
Oui, qui lui est en salle en ce moment.
Qui lui est en salle, exactement. Vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, parce que je pense que c'est un film qui peut plaire autant qu'il peut déplaire. Et du coup, c'est important que vous fassiez votre propre avis, mais on va le détailler. En tout cas, c'est assez marrant, parce que je crois que toutes les deux, on avait vu que l'affiche.
Ouais.
Et c'est tout.
C'est vrai.
Moi, c'est l'affiche qui m'avait plu. En fait, la colorimétrie de l'affiche et cette ambiance fête foraine à l'ancienne qu'on ressentait, en fait, dans le... Enfin, je crois pas que dans l'affiche, on voit que ce soit une fête foraine, mais on sent une espèce d'une espèce d'ambiance, justement,
ouais.
Un peu à l'ancienne, qui attire l'œil. Et voilà, à force de voir cette affiche tous les jours en allant au travail le matin, j'ai foncé et j'ai été le voir. Et j'avoue que le casting aussi donne envie. Puisqu'on a quand même Bradley Cooper, Rooney Mara, Kate Blanchett, William Dafoe. On en a parlé il n'y a pas longtemps quand on a parlé de Spider-Man. Donc vraiment un casting de haut vol. Alors de quoi ça parle? Et bien justement d'une plus ou moins fête foraine, enfin d'un homme donc, interprété par Bradley Cooper, Stan, qui semble hanté un peu par son passé et qui rejoint donc la troupe d'une fête foraine. Et alors c'est plus qu'une fête foraine, c'est vraiment les freak shows à l'ancienne. Mais de manière moins glamourisée, je trouve, que dans ah mince, comment il s'appelle ce film, The Greatest Showman.
Ah ouais, ça c'est clair.
Parce que là on voit vraiment le côté qui était plus réel entre guillemets, ouais. Puisque c'était vraiment des gens qui étaient martyrisés, maltraités, et puis tout pour l'argent, enfin voilà, c'était pas la même vision que dans The Greatest Showman du tout. Et on va suivre en fait l'ascension de cet homme, puisqu'il a des talents de manipulateur, et voilà, comment il va s'élever, entre guillemets, dans ce monde-là. Moi, c'est un film, visuellement, je l'ai trouvé magnifique. Effectivement, ses couleurs, cette ambiance, j'étais vraiment dedans. L'intrigue m'a bien plu également. Le gros bémol, c'est que j'ai trouvé beaucoup trop de longueur au milieu du film. Je me suis un peu vraiment... je me suis pas endormie, mais j'étais à deux doigts. Voilà, je regardais la montre, quoi, on va dire. La fin m'a vraiment bien remis en route, et du coup a fait que j'en ai une vision plutôt positive, globale. Mais voilà, de manière générale, quand même, je le trouve pas assez rythmé. Et ce qui fait que j'ai aimé, autre que l'ambiance, le style et l'intrigue qui du coup se relance vers la fin, c'est la prestation de Bradley Cooper qui était juste incroyable. Et j'aimerais bien qu'il gagne un prix.
Ouais, bah, je suis d'accord pour Bradley Cooper, c'est vraiment... ouais, le film est porté par lui, hein, parce qu'on est vraiment... on est tout le temps avec ce personnage. Et d'ailleurs, je trouve que c'est peut-être un peu des fois... au détriment bah, notamment du personnage de Rooney Mara. Alors... Au final, je crois que je suis pas trop fan de cette actrice. Je la trouve un peu plate.
Je suis pas été emballée non plus.
Surtout, enfin voilà, quand elle est coincée entre Bradley Cooper et Kate Blanchett, la pauvre, voilà.
C'est sûr.
Parce que Kate Blanchett aussi, je l'ai beaucoup appréciée. Elle est là que dans la deuxième partie du film, mais elle a un personnage assez marquant quand même. Et ouais, moi, alors je suis assez mitigée aussi. Mais quand même, il y a des gros points forts, et notamment dans le visuel, l'affiche n'était pas de la fausse pub. Hein, le visuel qui m'avait accroché sur l'affiche, je l'ai vraiment retrouvé. Cette ambiance fin des années 30 et tout. Enfin, les décors notamment, je les trouve vraiment sublimes, avec une attention du détail qui est waouh. Et par contre, comme toi, je l'ai trouvé trop long. Le rythme pas très bien géré. Il fait 2h30 quand même, donc pour un film de 2h30, il faut bien assurer le rythme, quoi, et donc voilà. Et en fait, d'habitude, les films de Guillermo del Toro, j'arrive toujours à m'accrocher émotionnellement, et là, c'était le cas des derniers que j'avais vus de lui, même La forme de l'eau, qui était quand même, j'ai trouvé, plus émouvant, et puis avant Crimson Peak, que j'avais vraiment adoré. Et là, pas vraiment, mais je pense que c'est plutôt lié au personnage principal qui n'est pas vraiment un héros, et j'ai toujours du mal, moi, d'accrocher émotionnellement à des personnages où dès le début je dis je le sens pas, ce gars, je le sens pas. Et du coup voilà, ça, mais c'est plus un avis personnel, ça n'a rien à enlever, au contraire, je trouve que c'est même au crédit de Bradley Cooper de faire sentir toutes les subtilités de son personnage, quoi. Donc voilà, ça restera pas dans mes préférés de Del Toro, mais rien que pour le visuel, ça vaut le coup. Autre film, autre ambiance encore, film qui est aussi à l'affiche en ce moment, puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps, et c'est The Card Counter de Paul Schrader. Et donc c'est un film pour lequel je suis allée pour une raison et une seule raison. Son acteur principal.
J'aime bien parce que quand tu m'as dit « Oh, j'hésite à aller le voir, c'est soit je dois travailler, soit je vais voir le film, là c'est la dernière séance qu'il y est », et je t'ai juste répondu « Oscar Isaac ».
C'est ça. Donc voilà, le film est porté par Oscar Isaac, qui incarne William Tell, qui est un ancien militaire qui gagne sa vie en fait dans des petits tournois de poker. Après avoir purgé une longue peine de prison, je crois qu'il a dû passer une dizaine d'années en prison, et c'est en prison qu'il apprend à jouer au poker, il apprend notamment à compter les cartes, d'où Card Counter. Et donc c'est un personnage très solitaire, très renfermé, qui est dans son truc, très routinier, enfin voilà, qui parle à personne, enfin bref. Jusqu'à ce qu'il tombe en fait sur un jeune homme qui a la vingtaine, et qui est lui en quête de vengeance, donc c'est Kirk. Et en fait, William, il va prendre sous son aile Kirk, et ils vont arpenter tous les deux les casinos de tournoi en tournoi. En même temps que Will va essayer de convaincre Kirk d'abandonner sa vengeance, en fait, puisque en fait cette vengeance est liée au passé de Will, et le force un peu à se reconfronter lui-même au fantôme de son passé et qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver en prison. Donc c'est un film qui m'a laissé encore une fois un peu mitigée, même si Oscar Isaac est absolument incroyable, là j'ai pas du tout été déçue par... enfin, c'était mon argument principal, j'ai pas été j'en ai eu la monnaie, j'ai eu la monnaie de ma pièce hein, parce que toutes les scènes sont avec lui donc c'est cool. Et pourtant le pitch en fait j'ai trouvé vachement prenant. Mais je pense que ça aurait dû donner un résultat plus passionnant que ça. Et en fait, là, ça reste très froid. En même temps, ça correspond au personnage, mais du coup, c'est pas très subtil. Ça a beau être froid, c'est pas vraiment subtil. Et notamment dans les dialogues, j'ai pas trouvé les dialogues toujours très très bien écrits. Et sans spoiler, j'ai trouvé la fin pas du tout satisfaisante, en fait. Et ça, du coup, bah, comme souvent, la fin, ça te laisse... Même si t'as apprécié d'autres trucs dans le film, bah, ça laisse quand même une impression plus forte que le reste, et donc bah voilà, une fin un peu pas satisfaisante, bah ça fait un film pas très satisfaisant quoi. Donc voilà.
Mais tu sais qu'au départ, je devais aller le voir pour Oscar Isaac, soyons clairs. Et parce qu'aussi, j'aime bien le poker. Voilà, j'y joue un petit peu. Enfin, j'y joue un petit peu. Je sais y jouer, donc... Enfin, je sais y jouer. La fille qui se dit n'importe quoi. J'aime bien y jouer, même si je ne sais pas du tout y jouer. Parce que quand j'y joue, je gagne souvent. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait. Mais voilà, donc du coup, quand on est en soirée ou quoi, et qu'il y a du poker, j'y joue. Et en fait, quand j'ai été voir, du coup... Nightmare Alley au cinéma avec des copains. Il y en a un qui l'a vu parce que lui c'est un grand fan de poker qui joue beaucoup beaucoup et qui a été le voir et il m'a dit j'ai détesté. Et là je me suis dit ah mince. Et je lui ai dit mais c'est parce que c'était pas réaliste au niveau du poker parce que si c'est ça alors moi vraiment ça me passe au-dessus. Hein. Et il m'a fait non non pas vraiment pas que. Enfin il me dit c'est juste le scénario. Voilà j'ai pas du tout aimé. Et du coup bah comme je lui fais un peu confiance en ses goûts, je me suis dit, bon, j'ai pas le temps d'aller voir 50 films, on va passer à côté. Bon, entre-temps, j'ai eu le Covid, donc j'ai pu aller voir zéro film. Mais voilà pourquoi j'y suis pas allée finalement.
Ouais, bah ouais, je comprends. En fait, en fait, moi j'aime bien, enfin j'aime bien les thématiques que ça aborde et j'hésite à en dire plus parce que je sais pas. En fait, je sais pas si la thématique centrale du film a été vraiment plus publicisée dans la pub du film ou pas. Donc j'ose pas la dire. Mais la thématique centrale est vraiment intéressante et une thématique importante. Et du coup, le personnage, ça traite bien de cette thématique. Mais notamment le personnage de Kirk, en fait, du jeune et du coup de tous les éléments d'intrigue qu'il apporte sont vraiment amenés de manière bourrine et pas du tout en accord avec le reste en fait de l'ambiance des tournois qui est très réaliste a priori même si je connais rien à ce monde-là mais du coup ouais c'est un peu je comprends c'est un peu bizarre et puis la fin c'est n'importe quoi quoi donc
Bon, il est encore en salle, mais n'allez pas le voir.
Bah,
Non, je
surtout si vous êtes
rigole.
fan d'Oscar Isaac, et dans ce cas-là, franchement, bah, on passe largement au-dessus parce qu'on passe tellement de temps avec Oscar Isaac, avec des gros plans d'Oscar Isaac, que ça suffit. Si on est fan d'Oscar Isaac, ça suffit. Mais voilà, si c'est le film qui vous intéresse, ouais,
OK.
pas, c'est pas votre priorité de, ça devrait pas être votre priorité de la prochaine semaine, je pense.
Ça marche.
Alors, un autre film, je pense qu'il est encore en salle, puisqu'il est sorti à la toute fin de l'année, donc il ne doit pas être encore en salle partout, mais si vous cherchez un peu, je pense que vous pouvez le trouver. C'est le film que j'ai été voir pour clôturer mon année 2021. Je suis allée avec mes parents et mon frère pour notre réveillon du 31. On s'est fait une sortie ciné, et on a choisi ce film-là. Et donc, c'est Belle de Mamoru Hosoda, donc un film d'animation japonais. Donc l'histoire, c'est on suit en fait Suzu qui est une jeune lycéenne timide qui a en fait surtout du mal à surmonter un trauma de son enfance. Et en fait, on est dans un monde contemporain, hein, peut-être légèrement futuriste parce que du coup il y a un élément qui n'existe pas dans notre monde, mais c'est très très proche de notre contemporain. Et en fait, ils ont un réseau social qui s'appelle You, et qu'en fait, un métavers, donc c'est une sorte de réseau social en réalité virtuelle, dans lequel du coup, Suzu va décider de se créer un alter ego, et donc qui s'appelle Belle. Et en fait, dans ce métaverse, donc, elle devient une superstar de la musique. Donc complètement en décalage avec sa vie IRL, où en fait elle arrive même plus à chanter, en fait son traumatisme l'empêche de retrouver la confiance pour chanter. Et donc, c'est dans ce monde virtuel qu'elle réussit à chanter. Et en fait, elle devient une superstar suivie par des millions de personnes. Voilà. Et en fait, tout est chamboulé quand elle rencontre la bête, donc dans You, qui est en fait un avatar effrayant, hein, bestial, qui sème le chaos dans You. Et en fait, elle est complètement fascinée par cette bête et elle va décider d'aller découvrir qui elle est et d'essayer de se rapprocher d'elle, etc. Donc en fait, l'histoire est carrément inspirée de La Belle et la Bête. Il y a énormément d'hommages à la version Disney, d'ailleurs, dans des scènes qui sont visuellement mais sublimes. Enfin, on a des hommages à plusieurs scènes, mais notamment la scène du bal, tout ça. Enfin, il y a vraiment... Enfin, on sent que Mamoru Hosoda est fan de Disney. Ça se sent. Même si, du coup, même en connaissant l'histoire de La Belle et la Bête, on est quand même surpris hein, par le scénario de Belle. Enfin, on ne peut pas savoir comment ça va finir, même quand on connaît La Belle et la Bête, quoi. Donc ça, c'est quand même cool. C'est une histoire qui m'a tenue en haleine, parce que jusqu'à la fin, j'avais vraiment envie de savoir qui était la bête, quoi. Du coup, c'est le 4e long-métrage de Mamoru Hosoda que j'ai vu, parce que je ne les ai pas tous vus, mais j'ai vu la majorité. Donc j'avais vu aussi Les Enfants Loups, que j'avais adoré, Le Garçon et la Bête, que j'avais moyennement aimé, et Mirai, ma petite sœur, que j'avais aussi adoré. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce réalisateur, c'est que il fait toujours des films uniques, quoi. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et là, il aborde en fait la thématique des réseaux sociaux, et de tous les enjeux qu'il y a autour des réseaux sociaux, mais pas de manière, binaire. Enfin, c'est pas tout est mauvais ou tout est bien, quoi. Il montre autant les côtés positifs que ça peut avoir que les côtés négatifs, et la manière dont il les traite, c'est génial. Il y a une scène, c'est pas un spoil, c'est vraiment une petite scène, oui, mais il traite de la rumeur, en fait, de les moments où il y a une rumeur qui se diffuse et comment du coup l'héroïne et sa meilleure amie, elles vont essayer de bloquer la rumeur, et c'est très très drôle la manière dont c'est mis en scène, etc. Enfin, ouais, c'est assez marrant.
Ça a l'air sympa.
Ouais, et visuellement c'est super beau, enfin, surtout tout ce qui... Bon, ce qui se passe dans le quotidien, c'est très réaliste. Hein, c'est le Japon rural, assez réaliste. Mais par contre, dans You, c'est vraiment hyper inventif, je trouve. Et puis moi, en fait, c'est surtout la dernière partie qui m'a beaucoup émue. Et donc voilà, encore une fois, la fin des films, ça joue beaucoup, je trouve, dans la vie qu'on en a après. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires, en fait, puisque bon, l'héroïne, elle est bien, enfin, elle a une histoire intéressante, mais c'est pas forcément, je trouve, la personnalité la plus intéressante. Et par contre, il y a plein de personnages secondaires qui sont assez, assez fun. Et il y a toute une petite bande, en fait, autour de Suzu qui est assez, assez cool. Voilà. Et puis aussi, gros avantage de ce film, c'est la musique, qui est quand même chouette, puisqu'évidemment, c'est rythmé par... C'est pas une comédie musicale, mais c'est quand même rythmé par les chansons de Belle, du coup. Donc c'est cool. J'aime bien.
Ouais, lui, il me tente vraiment bien. Et je pense que... Je crois que j'ai vu qu'il était encore à l'affiche, pas loin de chez moi. Donc, quand je finirai mon isolement, j'irai le voir.
Ouais, en plus, quand on est déjà fan de La Belle et la Bête, c'est marrant, en fait, de retrouver les petits clins d'œil, de tout ça. Au-delà de l'histoire qui est vraiment originale, mais de retrouver tous les petits clins d'œil et tout, c'est quand même sympa.
Ok. Cool. On va pouvoir passer, du coup, au dernier film, qui est donc Les Olympiades. Alors, comment faire un résumé du film? C'est un peu compliqué parce que c'est un film vraiment différent du dernier Audiard qui était en western, les frères Sisters.
Ouais, que j'avais beaucoup aimé.
Et ouais, mais alors là, ça, on est dans un style qui n'a rien à voir puisqu'il s'agit on suit trois personnes dans le quartier des Olympiades à Paris et voilà, leur vie.
Oui, trois jeunes, hein, enfin, trentenaires à peu près.
Ouais, la trentaine. Mm. Mais c'est marrant, c'est que, tu vois, nous, on se dit trois jeunes.
Ouais, non, c'est pas des jeunes.
Alors que, justement, il y en a une qui reprend ses études à la fac, et on voit que c'est la vieille, quoi.
Ouais,
voilà,
ouais,
la trentaine.
Alors, c'est trois personnages de notre génération, quoi, complètement.
C'est complètement. Ça. Et le film a été tourné en noir et blanc. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi ce qui fait un peu l'originalité et la différence des autres films d'Audiard. Moi, j'avoue que j'en ai vu qu'un seul de lui, Le Prophète, que j'ai adoré. Mais pareil, un style totalement différent, que ce soit des Frères Sisters ou des Olympiades.
Je crois que j'ai vu que les Frères Sisters, je crois pas que...
T'as pas vu Le Prophète ?
Non.
Ah, c'est un très très beau film. C'est un des films préférés de Thibaut, je pense que c'est pour ça qu'il m'a forcé à le voir. Mais pas de regret, hein, c'était très bon. Du coup, j'ai eu la chance d'assister à une petite discussion avec Audiard à la fin. Alors déjà, je voulais juste... Il y a un truc qui m'a marqué. Et je crois que je t'en ai parlé dans un message vocal. Je ne comprends pas les gens qui vont voir la projection d'un film avec des bagues avec le réalisateur après et qui partent à la fin du film quand le réalisateur arrive. Déjà, je me dis... Mais attends, le mec va expliquer le film, tu vas apprendre plein de trucs. En plus, c'est Audiard, c'est quand même un peu une star. Je sais pas, t'es content de voir une star? Ou bien que moi. Et puis de trois, c'est tellement mal élevé, le réalisateur, il se déplace, il vient présenter son film, toi tu te casses à ce moment-là. En mode, le film, lui, vaut pas la peine de plus de ton temps. Et en fait, tu vois, ce serait un ou deux. Tu te dis, bon, il y avait peut-être, allez, la babysitter qui a pas appelé, enfin qui a appelé, ou ils savaient pas qu'il était là, et ils avaient pas prévu plus de temps, ou effectivement, enfin. Mais là, il y avait un nombre incalculable de personnes, et puis il y en a qui sont partis tout de suite après, quand il est arrivé, et puis il y en a qui partaient en plein milieu, pendant qu'il était en train de raconter des choses et répondre aux questions. Je trouve que c'est inadmissible, et si vous nous écoutez et que vous faites ça, arrêtez de faire ça tout de suite. N'allez pas voir le film à ce moment-là, parce que. Déjà, vous prenez des places pour les gens qui seront vraiment intéressés, et puis c'est hyper mal élevé en fait.
Ouais, non, c'est vrai que c'est pas très respectueux.
Donc on va revenir sur du coup les réponses un peu à ces questions, parce que j'avais pris quelques notes, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient assez intéressantes.
Est-ce que peut-être on donne notre avis avant de notre avis
Ah
sans
ouais, c'est une
spoiler
bonne
avant
idée.
de passer du coup aux détails qui spoilent un peu plus peut-être.
C'est une bonne idée. Je pense que j'aurais. Alors, j'ai bien aimé le film. Quand je suis. Enfin, le film s'est terminé, je l'ai trouvé. En fait, j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai trouvé assez captivant pour un film avec une histoire quand même assez classique, entre guillemets. Hein. Il se passe pas grand-chose non plus à l'intérieur. Mais je l'ai trouvé hyper intéressant parce que pendant tout le film, je me suis posé plein de questions. Mais pourquoi il réagit comme ça? Mais pourquoi ici? Mais pourquoi ça? Et moi, j'aurais fait comment? Et en fait, du coup, ouais, je l'ai trouvé vraiment passionnant à ce niveau-là, au niveau de la réflexion sur les personnages. Et je pense que je l'ai encore plus apprécié le après, quand justement il nous a expliqué des choses.
Ouais.
Ça a fait que voilà, je l'ai encore plus apprécié. Mais déjà de base, moi j'ai eu un très très bon feeling parce que j'ai beaucoup aimé justement ce côté très axé sur les personnages, moins que sur les thématiques, enfin plus sur les personnages que les thématiques.
Ouais. Bah moi alors j'ai bien aimé je trouve que le noir et blanc passe totalement enfin très très bien, je trouve dès les premiers plans, tu comprends pourquoi c'est en noir et blanc, enfin c'est pas juste Oh, regardez, on a fait un noir et blanc, c'est stylé. C'est juste, enfin, on sent qu'il y a un travail en fait sur l'image lié au fait que c'est en noir et blanc. Et ça, j'ai trouvé que c'est, bah, ça change quoi. Enfin, on n'a pas ça souvent, donc ça, j'ai vraiment aimé. Après, par contre, j'ai un peu du mal à rentrer dans le film en lui-même au début parce que j'arrivais pas du tout en fait à comprendre les personnages, à m'y projeter. Enfin, pour moi, c'était vraiment, en fait, c'était trop proche d'un quotidien que je peux connaître tout en étant trop loin de moi et de bébé. Donc du coup c'était un peu perturbant au début et puis après en fait c'est le personnage de Noémie Merlant qui m'a permis de re-rentrer vraiment dedans et puis après qui joue un des trois personnages principaux et que j'avais découvert cette actrice dans Le portrait d'une jeune fille en feu qui est un film que j'avais pas aimé mais j'avais beaucoup aimé Noémie Merlant dedans et du coup ouais c'était au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure où tu comprends, où les personnages se développent et où, parce que c'est écrit de manière vraiment très très fine, quoi. Tu sens que tous les plans, tous les échanges sont pensés, quoi. Et donc c'est vraiment des très beaux personnages, quoi. Donc très complexes. Donc ça, j'ai fini par après vraiment me plonger et apprécier, même si du coup j'ai des réserves. Ouais, sur le traitement des thématiques et un peu, pour le coup, moi, j'aime bien les développements de personnages, mais j'aime bien du coup qu'ils soient un peu quand même au service d'aborder des thématiques dans lesquelles je peux aussi me projeter, même si ça m'a fait pareil, ça m'a fait poser plein de questions, donc ça, je trouve, c'est un bon point. Un film qui fait se poser des questions, c'est un bon point.
Non, c'est clair.
Donc voilà. Mais ouais, je pense que ça plaira pas à tout le monde, ce film, mais voilà, si vous êtes curieux, si vous avez envie de rencontrer des personnages, voilà, et de partager un peu une tranche de vie, c'est franchement, c'est de la qualité quand même.
T'as bien résumé. Donc oui, pour revenir juste rapidement sur le résumé, puisqu'on a dit que de toute façon on allait spoiler hein, dans cette partie-là, donc on suit effectivement trois personnages, Camille, Amber et Emily, et Nora, ouais, on va dire quatre personnages, il y en a quatre, ouais. Bon, il y en a une, on la voit un peu moins, c'est vrai, mais elle est bien présente. Donc en fait, Camille et Émilie, on va dire que ce sont deux colocs qui vont finir par coucher ensemble. Elle va tomber amoureuse, lui pas tout de suite, etc.
C'est plutôt deux colocs qui commencent par coucher ensemble et après, il y a le reste de l'histoire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on commence par un flashback, entre guillemets. On commence par eux et puis ensuite, on explique l'histoire. Et on a aussi du coup Nora qui, elle, arrive de province, alors je sais plus tout exactement. Bordeaux, hein, c'est ça? Et qui arrive à Paris pour reprendre l'université, ses études, et qui, malheureusement, lors d'une soirée, met une perruque et ressemble à une actrice. C'est pas vraiment une actrice porno, c'est. On voit que c'est là que c'est un peu à l'ancienne, puisque c'est ce qu'on appelait les cam girls, qui n'existent quasiment plus, je crois, maintenant. Si, en fait, c'était dans les années, au début des années 2000, où c'était vraiment à la mode, ces filles qui se déshabillaient à la caméra, quand tu payais, en fait, une session d'une heure, et elles se déshabillaient à la caméra, en webcam, et elles faisaient ce que tu voulais. Et c'est vrai qu'on appelait ça, du coup, les cam girls, et c'était dans les débuts des années 2000, alors je pense qu'il y en a encore peut-être un peu maintenant, mais c'était vraiment démocratisé à l'époque. Et du coup, c'est ce qui fait que ce film, pour moi, il n'est pas non plus intemporel, parce qu'on voit, en fait, un peu la période entre guillemets qui est montrée aussi, je pense.
Ah, j'avais pas du tout, je vais pas temporaliser le truc. Pour moi, c'était vraiment du hyper contemporain, mais.
Moi, à cause de ça, tu vois, je me suis posé la question. Mais il y a eu une question justement là-dessus, parce que quelqu'un disait que c'était ça restait très intemporel. Et pour moi, tu vois, autant j'ai vu il y a pas longtemps et ressorti au cinéma La Haine, et je l'ai trouvé très intemporel au niveau des thématiques, parce que je me suis dit en fait, on aurait pu le tourner aujourd'hui, le film, c'était la même chose. Autant tu vois très bien que t'avais des... Même si... tu vois, il y a des cassettes vidéo, enfin, il y a des choses qui font que t'arrives à le situer. Je me suis dit, là, on arrive plus difficilement à le situer, mais ce sont des thématiques qui sont quand même... Enfin, je pense pas que ces thématiques-là, dans 50 ans, ce sera les mêmes. Parce que quand tu regardes les évolutions entre... Et du coup, pour moi, il était pas intemporel, contrairement à... Non. Parce que, alors, c'est un autre truc pendant ces rencontres-là. Il y a beaucoup de gens qui ne posent pas de questions, mais qui lèvent la main et qui donnent leur vision du film. J'ai dit, ouvrez un podcast et racontez votre vision du film. Mais je pense que Audiard, c'est pas qu'il s'en fiche, mais... Et en fait, tu voyais, il était là. D'accord, il y a une question. J'ai dit, mais... Et du coup, il y a un mec qui disait ça, et moi j'étais pas d'accord, notamment à cause de ces cam girls. Voilà.
Ok, parce qu'à côté de ça, avec notamment le personnage de, j'ai oublié, la première qu'on voit...
Émilie, l'asiatique,
ouais. Qui elle, enfin du coup il y a tout un moment où elle est complètement obsédée par les applis de rencontre et ça tu vois, enfin il y a ce côté qui est du coup là pareil, c'est pas du tout intemporel, c'est vraiment très codé.
Ouais. Voilà. Ouais, totalement.
Et puis toute cette, je sais pas, cette ambiance générale de justement de cette génération, de notre génération, cette période un peu flottante, qu'il y a aussi un contexte économique, qu'il y a un contexte particulier. C'est très daté aussi. Je pense que dans 20 ans, on le reverra en disant, ça représente un moment particulier pour cette génération-là. C'est pareil, je trouve que c'est plus une capsule d'époque, plus qu'un... Mais du coup, ouais, le coup des cam girls, comme j'aurais été incapable de le...
De le situer. Peut-être que c'est un clin d'œil et qu'il y en a encore, mais ce qui était marrant, c'est que je trouve dans son université, du coup, ils connaissent cette cam girl et ils vont faire tout de suite le lien en disant ah, mais en fait, c'est toi, alors bon, c'est pas elle, hein. Mais quoi qu'on se pose la question quand même, et c'est tourné de telle sorte à ce qu'on se pose la question.
Mais là encore, parce que du coup, il y a c'est juste parce qu'il y a un groupe de garçons qui la reconnaît, mais qu'après, ils utilisent les réseaux sociaux justement pour envoyer à tout le monde.
C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, aussi, du coup,
je pense que c'était vraiment plus là, le coup de pas de bol en fait, de tomber sur le groupe de potes relou qui avait trouvé que c'était là, un bon cadeau pour leur copain et qui du coup la reconnaît, enfin pense la reconnaître et qui du coup crée un buzz autour de ça dans les réseaux du lycée, dans l'université qui fait que du coup ça lui. parce que ça traite aussi de ça, quoi, des rumeurs qui détruisent la réputation.
Alors, du coup, quelques questions qui sont revenues. On lui a posé des questions sur l'inspiration du film, forcément. Question classique, mais toujours intéressante. Et en fait, ça provient d'un roman graphique.
Oui.
Et du coup, moi qui suis fan de romans graphiques, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Alors, ce qui est marrant, c'est que Audiard dit lui-même qu'il a été tellement adapté qu'il sait même plus ce qui a été gardé, enlevé.
D'autant que c'est pas lui qui a écrit le scénario, puisque en fait, et du coup, l'adaptation, puisque en fait, c'est deux femmes, c'est Céline Sciamma et Léa Missius, qui ont coécrit. Donc. Donc ça m'étonne pas qu'Audiard il a dit le film.
Après, il a expliqué par contre que dans le roman graphique, il y a trois histoires assez distinctes et qu'en fait, eux, ils ont ajouté du coup le personnage de Camille, donc l'homme, qui permet de faire le lien en fait entre ces histoires. Et il a expliqué qu'une autre de ses sources d'inspiration, c'était un film que je n'ai pas vu. Et c'est marrant parce qu'il a dit « ce film a été très pédagogique pour moi ». Donc ça m'a fait rire. Je me suis dit, tu sais, d'utiliser des mots de prof comme ça. C'est « Ma nuit chez Maud ». Je pense pas que tu le connaisses non plus.
Non.
Ouais. Et en fait, il expliquait que dans Ma nuit chez Maud, les protagonistes parlaient et oubliaient de coucher. Et que là, c'était l'inverse, puisqu'ils couchaient et ils parlent après. Et qu'en fait, c'est un peu la thématique récurrente du film. Et c'est d'ailleurs fait exprès que la première blague en chinois qu'Emily fait, ce soit ça, en fait. Donc voilà, c'était ces petites inspirations. Une autre question qui est revenue et qui était... tout le monde se l'a posé, même moi, je me suis dit, si quelqu'un, personne ne la pose, je la pose. Pourquoi les Olympiades? Pourquoi le 13e? Et en fait, il a expliqué que aussi, il avait vécu dans le 13e, alors pas aux Olympiades, bizarrement, mais à la butte aux cailles. Plus logique. Enfin, pas pour les côtés asiatiques, mais pour le côté un peu plus friqué. Je voyais mal Audiard vivre dans les grandes tours des Olympiades. Hein. J'avais vraiment beaucoup de mal.
Après, je connais pas son enfance. Ah bah, il est fils, évidemment, fils de Michel Audiard, j'avais oublié.
Bah oui. Donc j'avais du mal, tu vois, à me dire quand il a dit « Ah, mais c'est parce que j'habitais là-bas. » J'étais là « Ah ouais ?» Puis après, il fait « Ah, mais par contre, elle habite au Caille, de l'autre côté. » Ah. Tout le monde a rigolé, bon, au moins, voilà. Et non, il a toujours trouvé le 13e très très beau. Et il expliquait que pour lui, Paris, c'était assez moche. C'était très gris. Peu de perspectives, qui préférait, tu vois, des villes comme Berlin, par exemple, visuellement, et qu'en fait, il a voulu présenter un Paris qui n'était pas Paris, et du coup, le 13e, c'était parfait, puisque c'était très moderne, très beau, et donc, du coup, bah voilà, il voulait représenter Paris à travers le 13e.
Ouais, alors que moi, c'est le type de paysage, mais qui m'angoisse à mort. C'est ça aussi qui, bon, ça va, je peux supporter ce genre d'image à l'écran, mais vraiment, j'arrivais pas en fait à comprendre pourquoi les personnages se sentent aussi à l'aise dans ce quartier. Moi, j'aurais juste envie, c'est de fuir.
Je t'avoue que nous, on cherche un appart avec Thibaut et on cherche Montreuil ou le 13e. Donc, quand tu voudras venir me voir, il va falloir...
Non, mais c'est juste l'idée d'habiter dans ce type d'endroit qui me repousse pas le fait de visiter. Parce qu'en vrai, moi, j'aime... Enfin, ce coin vraiment qu'on voit là, c'est pas... Je suis pas fan... Par contre, j'avoue, j'ai un faible esthétique, on va dire, pour les nouveaux quartiers autour de la BNF, en fait.
J'étais sûre que t'allais dire ça.
Ouais, j'adore. Enfin, il y a ce côté... c'est pareil, c'est du béton aussi, mais avec un style... Enfin, je sais pas, je préfère ce côté-là. Même si à vivre, je suis pas sûre que ce soit mieux, mais...
Il y avait un autre point aussi qui a été... qui était abordé par Audiard et je trouvais ça hyper intéressant. C'est comme j'ai dit, en fait, c'était plus les personnages qui ont été bien écrits et qui ont été, qui avaient une importance dans le film plus que les thèmes. Et en fait, c'est ce qu'il a expliqué, que pour lui, voilà, c'était vraiment ça le point crucial. C'était ces personnages, comme t'as dit tout à l'heure, d'une trentaine d'années qui sont un peu flottants, voilà. Et pour lui, et ça je l'avais pas vu, c'est qu'ils ont un point commun, tous ces personnages, sauf Amber, donc les trois autres, c'est qu'ils se trompent sur qui ils sont, ils vont dans une mauvaise direction parce qu'ils n'ont pas la bonne perception qu'ils ont d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent, et qu'en fait au final, Amber elle sert de déclencheur et que c'est grâce à elle que tous les dominos tombent et qu'il y a cette fin, entre guillemets, happy end quoi.
Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas vu, enfin on comprend que le personnage d'Amber il est un peu à part. Et puis elle est pas du tout dans la même Enfin, on n'a pas son point de vue, en fait. Amber, on la voit que à travers les yeux de... Noémie, non, bah non, Noémie, c'est l'actrice.
Nora.
On la voit qu'à travers les yeux de Nora. Mais du coup, ouais, effectivement, maintenant que j'y pense, effectivement, ça fait sens.
Mais tu sais qu'en parlant de Amber, tu sais, la seule scène en couleur, c'est elle. Et on lui a demandé pourquoi. Il n'y a aucune raison. Cette scène, il l'a toujours imaginée en couleur. J'adore, non mais...
Bah oui, des fois on essaie d'interpréter et c'est pas...
C'est ça. Ça me fait penser quand on était en cours, tu vois, à la fac... Enfin, pas à la fac, pardon, je n'ai pas du tout de lettres à la fac, mais au collège et au lycée, quand t'avais des textes d'auteurs qui sont morts depuis des dizaines d'années, et qu'on était là en mode, alors là, il a utilisé une métaphore pour marquer ci, ça, là, il a écrit ça pour parce qu'il pensait à ci, à ça, et moi, j'étais tout le temps en train de demander... Mais vous êtes sûre? Mais il l'a écrit quelque part dans un journal ou ça se trouve c'est du hasard quoi?
Alors ça, c'est vrai qu'on devrait en fait en cours ne pas dire qu'il a fait ça pour ça. Mais il y a une théorie, ça s'appelle la mort de l'auteur. Et en gros, c'est pas une théorie, c'est une approche de la littérature. Je pense que du cinéma, c'est pareil. Où en gros, c'est pas l'intention de l'auteur est importante, mais c'est pas le plus important. C'est la manière dont le récepteur, il projette son truc. Et donc, par exemple, si quelqu'un avait une interprétation sur pourquoi Audiard a choisi de mettre ce plan en couleur et qu'il crée un sens à ça, et ben c'est aussi le sens que crée le spectateur est aussi important que l'intention qu'avait le cinéaste, quoi. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça redonne un peu de valeur aux analyses et qu'il n'y a jamais d'analyses qui vont trop loin. En fait, c'est pas parce que l'auteur n'a pas pensé à ça que c'est pas une bonne analyse, puisqu'en final, une œuvre, elle est faite pour être consommée. Donc, du coup, c'est...
Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Mais tu vois, on devrait nous expliquer ça au collège-lycée.
Bah ouais, moi, j'ai découvert ça et qu'il y a quelques années. En fait, c'est passé via Harry Potter, Aspic et toutes les personnes que j'ai croisées via ça. Mais du coup, je trouve ça vachement, vachement intéressant, quoi.
Ah, je suis d'accord. Parce que moi, tu vois, pour moi, en fait, quand il a expliqué que c'était grâce à elle que les dominés ont tombé, etc., je me suis tout de suite dit, mais oui, mais effectivement, c'est l'élément central, c'est pour ça qu'elle est au milieu, qu'elle sépare les deux parties, qu'elle est en couleur et tout. Et je me suis vraiment, tu vois, fait toute mon interprétation. Puis après, quand il a eu la question, qu'il a répondu ça, j'étais morte de rire, je fais bon.
Puis je pense aussi, c'est des fois, les artistes, quel que soit leur média, ils font des choix qu'ils ont l'impression que c'est un... Enfin, c'est inconscient, quoi. Ils n'ont pas de raison derrière,
ouais.
Mais qu'ils ont quand même une intuition de le faire comme ça et que l'intuition, elle peut avoir un sens, même s'il n'est pas conscient, quoi.
Et en parlant, du coup, pour les personnages, il y a un débat que j'ai eu avec Thibaut, parce qu'il est venu voir le film avec moi, et on n'était pas d'accord, et bon, Audiard a dit en sorte que Thibaut avait raison. Moi, les personnages, je les ai trouvés attachants. Je les ai bien aimés et j'ai bien aimé les suivre. J'avais envie qu'ils aient une belle fin et je m'identifiais à eux sur certains points, etc. Et Thibaut, il les trouvait mais totalement antipathiques. Ils ont dit mais alors qu'ils étaient insupportables. Il m'a dit il y en a, il avait envie de les baffer et on n'était pas du tout d'accord. Et en fait, bah Audiard a expliqué que ces personnages étaient justement très antipathiques. C'était fait exprès parce que comme dit Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et du coup, qu'il avait pensé à ça en filmant, en fait.
Ah ouais. Mais moi, du coup, comme je disais, au début, j'ai eu un peu du mal parce que je pense que c'était à cause de ça, parce que, bah, notamment Camille et Émilie, j'ai eu un peu de mal avec eux au début. Et en fait, après, après je me suis un peu attachée à eux, comme toi, mais tu vois, tout en reconnaissant leurs défauts, puis aussi en reconnaissant que ce seraient des personnes avec qui, tu vois, je pourrais être amie, mais c'est des personnes très différentes de moi. Donc, on pourrait pas... on n'a pas la même manière de voir les choses, quoi. Et c'est pas grave, c'est comme la plupart de mes amis. Il y a très peu d'amis qui sont des clones de moi-même. Ce serait très chiant d'ailleurs d'être amie avec des clones de moi-même. Donc c'est plutôt dans ce côté-là. Alors que Nora, c'était différent. Je l'ai tout de suite trouvée sympathique parce qu'elle me ressemble plus probablement dans sa manière d'être. Mais par contre, oui, il y a des moments où j'ai. Alors là, elle est en train de se perdre complètement. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais tu vois, mais pareil, c'est comme si au bout d'un moment, à la fin du film, c'est comme si je voyais pareil des amis qui sont des connaissances qui ont leur côté attachant, mais qui voilà, qui font des bêtises et puis c'est voilà. Mais ouais, moi aussi, je les ai quand même trouvés plus attachants que quand ils pâtissent.
Qu'est-ce qu'il dit? D'accord, bon bah, tu me rassures, parce que c'était marrant, parce que Thibaut, ouais, il était Enfin, lui, là, il est vraiment rentré dans ce côté, ouais, comme Audiard, ben non, ils sont antipathiques, ils sont insupportables.
Non, mais il y a des moments où ils sont chacun, ils sont insupportables à leur manière. Enfin, mais c'est des moments, tu vois. C'est... Et en même temps, on a une vue totale du personnage qui fait qu'on ne peut pas les considérer comme antipathiques de A à Z. Il y a toujours des moments qui sont...
Ouais, c'est sûr.
Forcément, on est en empathie, quoi.
C'est sûr. Mais tu sais que c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'il y a une femme qui a... Enfin, qui n'a pas posé une question, mais qui a voulu le remercier, parce qu'elle disait, j'ai déjà vu ce film, en fait. Comme on disait, il est là, il est ressorti pour le Festival Télérama, mais il était déjà sorti avant. Et elle dit, j'ai vu avec mon copain qui est noir, et qui m'a dit, c'est la première fois que, vraiment, il y a un homme noir dans un film auquel je peux m'identifier, sans que forcément on parle de racisme ou quoi que ce soit, enfin voilà, et qui s'identifiait du coup à lui, et il le remerciait pour ça. Et la réponse d'Audiard, c'était bah, j'espère qu'il s'est pas quand même trop identifié à lui, parce que c'est un sacré trou du cul, hein. Et ouais, t'es là, ah ouais. Ok.
Ouais, non, franchement, c'est le pire des, c'est le pire du, des quatre, hein,
Ouais. Un peu.
Et comme par hasard, c'est le seul homme. Hein. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Non, mais pareil, tu vois, même dans ses côtés, mais oh là là, tu dis, mais il fait vraiment de la merde. Mais il a quand même ses côtés, voilà. Enfin, c'est lui qui est, pour le coup, là, il est le plus proche de situation dans laquelle je pourrais me retrouver, tu vois, de ce prof qui se met en pause pour passer son agrègue, et puis au final, on sent qu'il est même plus trop sûr s'il va passer son agrègue, enfin, tu sais, qui est en plein débat sur lui-même, et puis de croiser son élève qui est sur le chantier, enfin, son ancien élève qui est sur le chantier, enfin, je sais pas, il y a plein de moments qui sont hyper touchants, je trouve, avec ce personnage qui sont très... Bah, encore une fois, c'est vraiment un des personnages qui, je trouve, qui est une bonne capsule de l'époque, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Et j'ai beaucoup aimé, en fait, avec Camille, le traitement, du coup... Bon, au fait, le fait qu'il est noir, c'est pas du tout... Enfin, je veux dire, il y a...
Bah, on s'en fiche.
Ouais. C'est pas abordé. Le racisme, il est pas vraiment abordé.
Même pas du tout.
Ouais.
En fait, il en a parlé au dire de ça. En fait, il a expliqué que pour lui, c'était vraiment pas le sujet. Et que c'était des débats qui sont pas intéressants pour lui. Donc par exemple, bah, ce sujet du racisme, c'est une thématique qui pour lui n'est pas intéressante, parce que c'est tout simplement la société, elle est en retard sur ces débats-là, et il a mentionné aussi l'homosexualité, et du coup il a dit, bah ici c'était pas le propos, en fait, voilà, il n'avait pas envie d'en parler, parce que pour lui c'est juste la société qui est en retard, et on devrait ne plus avoir à en parler, entre guillemets. Et par contre, il a dit, par contre on laisse des traces, et il explique que... le fait que la question de place dans la société soit représentée par Nora, qui est la bordelaise provinciale qui débarque à Paris, et pas par celle qui est à moitié chinoise, qui au final, elle a bien sa place totalement ancrée dans la société. Et puis le racisme, la petite trace, en fait, c'est une fausse piste qui a été laissée au début, puisque quand Camille arrive à l'appartement d'Emily, elle le refuse direct, et bah forcément... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé, et il y en a d'autres, en discutant au cinéma, il y en a d'autres qui ont pensé à la même chose, c'est tout de suite, on s'est dit, bah, parce qu'elle est raciste, elle voit un homme noir qui arrive, qui lui dit, je viens pour la coloc, elle le regarde de haut en bas, et elle lui a dit, non, ça va pas être possible, et en fait, non, c'était pas ça, au final, elle explique après que c'est parce que c'est un homme qui a voulu une femme, et
en fait, c'était... Ouais, mais moi, tu vois, genre, quand elle a eu sa réaction, moi, enfin, pour moi, c'était évident que c'était juste parce que c'était un homme, tu vois.
Ah ouais. Ben moi, tu vois, je me suis sentie hyper mal à l'aise après, parce que je me suis dit, c'est horrible, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est elle est raciste, tu vois. Et en fait, c'est fait exprès, hein. Il y en a d'autres, des fausses pistes comme ça dans le film. Mais du coup, voilà, il a fait exprès de pas vouloir aborder cette thématique-là pour lui, parce que c'était des sujets qui, tout simplement, la société est en retard là-dessus.
Ouais, et moi, c'est vraiment un détail, mais ce que j'ai aimé dans ce traitement-là aussi, c'est le traitement de la famille de Camille, du coup, son père et sa sœur, et de ses rapports à eux, parce que du coup, on voit que c'est pas... Tu vois, il y a un peu souvent des clichés qu'on voit souvent sur le père dans les familles noires, qui est très, voilà, très autoritaire, pas du tout... notamment vis-à-vis de ses filles, etc. Et là c'est l'inverse. Enfin, c'est un père qui est hyper... on le voit très, très peu, hein, le père. Mais dans le peu qu'on voit, la manière dont il parle de sa fille, dont il la supporte, etc., et qui remet son fils aussi à sa place, en mode « Attends, mais t'es trop méchant avec ta sœur, là, enfin, ça va pas. » C'est le moment où il m'a le plus saoulé, Camille, d'ailleurs.
Ouais.
Et du coup, ouais, j'ai vraiment aimé, en fait, ce côté, bah, voilà, on montre une famille qui est pas dans ces clichés, quoi. Donc c'est
bon, voilà en gros les petites notes que j'ai prises. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, on va pas débattre pendant une heure dessus. Moi, je voulais juste finir sur une anecdote et le prochain film d'Audiard, parce qu'il a donné des indices, mais je ne sais pas si c'était une blague ou pas, parce qu'il a, alors, il a fait beaucoup de blagues, hein, parce que je parle de Camille et trou du cul, etc., mais alors, il en a fait beaucoup. Des
citations qui sont pas mal.
Ouais, bah, je racontais à Marjo, par exemple, à un moment, quelqu'un demandait quand est-ce qu'il sortira en DVD, qu'on puisse le revoir, puis là, il y a eu un gros blanc, et puis il a fait, bah, je sais pas, les films, ça sort encore en DVD. Mais tu étais là, quand même, t'es dans l'industrie du cinéma, tu devrais le savoir quand même, un minimum. Donc bon, on espère qu'il va le voir sur une plateforme, alors vu qu'il va peut-être pas sortir en DVD. Et puis...
c'est surtout que le réalisateur, il a rien... Enfin, c'est pas...
Oui, c'est pas lui qui gère ça du tout, ouais. Mais je pense que le mec a voulu dire qu'en gros, il a tellement aimé qu'il avait envie de le revoir, tu vois, mais bon. Et donc, c'est vrai que ses réponses, des fois, complètement en décalage comme ça, c'était très drôle. Et puis, à la toute fin aussi, en fait, bon, il y a eu pas mal de débats aussi sur comment le sexe est traité au cours du film. Et juste, voilà, à un moment, il a mis « Oh, ça aurait été drôle, on aurait pu mettre à la toute fin une voix off. » Et puis après ça, il y a eu le confinement et on a baisé comme des castors. Et quand tu vois Audiard face à toi qui te sort ça, t'es là « Ah ouais, ah, t'es... ok. » Puis en fait, je l'ai trouvé très très drôle. Et du coup, je ne sais pas, voilà, s'il a... ce qu'il a déclaré sur son prochain film était une blague ou était vrai, mais accrochez-vous, il a expliqué que le prochain film serait une comédie musicale à Mexico, chantée en mexicain, qu'il a écrit pendant le confinement, voilà, puisqu'il a écrit pendant le confinement un livret d'opéra en 5 actes. Voilà. Et j'étais là, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une connerie ou... Il va vraiment y avoir une comédie musicale à Mexico chantée en mexicain en 5 actes version opéra fait par Audiard ou...
Mais c'est le problème avec... Enfin, le problème, non, c'est aussi le génie de Jacques Audiard, c'est qu'en fait, il a pas de... Il change complètement de style, ouais, à chaque film. Il a pas de... Mmh. Et du coup, enfin... Ah si, il y a un autre film de lui que j'avais vu, c'était « De battre mon cœur s'est arrêté », que j'avais vu aussi.
Ah oui.
Mais bon. Pareil, ça n'a rien à voir avec... même avec les Olympiades, quoi. Enfin, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même... la même vibe... Donc, et puis de ce que je connais du prophète, ça n'a rien à voir non plus. Donc,
Non, bah totalement. Et voilà, je finirai juste sur cette anecdote et puis on va pouvoir clore l'épisode là. C'est que, vous savez, à un moment, il y a Émilie qui joue du piano, un morceau de Schubert. Et bah, faut savoir qu'au départ, Audiard, il voulait qu'il y ait du Schubert sur tout le film. Et ils ont testé. Ils se sont rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Et du coup, ils l'ont enlevé. Ils ont juste laissé le passage où Émilie joue du piano.
La musique est très... Je me souviens plus exactement, mais c'est très subtil. Hein,
oui, moi, je m'en rappelle plus du tout, donc pour dire à quel point ça m'a pas marqué, quoi.
Ouais. Bah, merci pour ce compte-rendu de la rencontre avec Jacques Audiard. Franchement, c'est cool, hein, quand on a la source, la vie des coulisses aussi, de la création du créateur, c'est cool quand même.
Ouais, c'était vraiment très sympa et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été à une rencontre au Méliès. Ma plus marquante, c'était quand même celle avec Wes Anderson. Mais j'avais été voir aussi des réalisateurs un peu moins connus. J'avais été voir Catherine Deneuve qui avait parlé d'un de ses derniers films. Enfin, au Méliès, il reçoit vraiment beaucoup de monde. C'est un petit cinéma indépendant, mais c'est vraiment top. Et voilà, si vous habitez en région parisienne, n'hésitez pas. Montreuil, c'est pas loin, c'est en métro, c'est accessible. Et contrairement à ce que les pros Zemmour disent, c'est une ville française hyper mignonne.
Et bien voilà pour notre épisode. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'a pas parlé de cinéma indépendant et de cinéma d'auteur. C'était quand même... Ça fait du bien de temps en temps.
Oui, c'est vrai qu'on a eu une phase beaucoup Disney, Marvel...
Grand studio, mais...
Studio, gros blockbuster. Mais ouais, on va voir quand même d'autres films, c'est juste que des fois c'est difficile, par exemple, soit quand juste Marjo l'a vu, soit quand juste moi on a vu un film, c'est difficile d'en faire un épisode dessus, et puis un zapping avec juste 2-3 films, c'est pas forcément non plus, quoique on pourrait, bon, ce serait des épisodes courts.
Bah dites-nous hein, si des épisodes courts avec juste pas beaucoup de films, ça vous intéresse, ou si vous préférez qu'on en fasse moins souvent avec plus de films, dites-nous ce que vous préférez.
Et n'hésitez pas à nous le dire sur Insta ou sur Twitter, @poptpodcast.
Eh bien, on se retrouve très bientôt pour, il me semble, un autre zapping.
Ouais, Je crois qu'on l'enregistre même tout de suite maintenant.
Je crois aussi. Vous les aurez pas les deux en même temps, à moins que par un miracle, on fasse le montage en totale synchronicité. Mais voilà, si vous êtes pas trop sorti ciné et que vous êtes plus plateforme de streaming, on a ce qu'il vous faut dans le prochain épisode.
Donc on se retrouve très bientôt.
À bientôt.
Salut.